Merci d'écouter RFI, les 5h, ici à Paris, 3h, en temps universel.
Martin Guez.
Et nous sommes le dimanche 18 mai 2025, ravi de vous accueillir. Voici les grands titres de l'actualité ce matin. Réaction et indignation internationale alors que l'armée israélienne annonçait hier intensifier encore ses opérations dans la bande de Gaza. Pour en prendre le contrôle, 32 personnes ont été tuées ce samedi, dont 24 lors d'une frappe sur un camp de déplacés. Gaza, où les nouveaux déplacements forcés de la population inquiètent. Journée d'élection en Europe, second tour de la présidentielle en Roumanie, premier tour en Pologne, où la campagne des 13 candidats a été polluée sur les réseaux sociaux par une vaste tentative de déstabilisation orchestrée depuis la Russie. Le Ocean Viking est intervenu hier au large des côtes tunisiennes et maltaises. Le navire humanitaire a pu sauver 270 migrants en grand péril. Et puis enfin, c'est le grand jour pour le pape Léon XIV. Grande messe inaugurale ce dimanche, place Saint-Pierre à Rome, pour le nouveau souverain pontife, où touristes et dirigeants du monde entier affluent aujourd'hui. Des civils affamés, des hôpitaux à nouveau frappés, la violence doit cesser. Voilà les mots d'Antonio Costa, le président du Conseil européen, alors qu'Israël a annoncé élargir son offensive à Gaza, et ce après 19 mois de guerre. Une frappe israélienne a fait 24 morts dans un camp de déplacés à Ran Younes, dans le sud de l'enclave, selon les médecins locaux. La situation des Palestiniens est plus qu'atroce, plus qu'inhumaine, a réagi Antonio Guterres, le patron de l'ONU, en marge du sommet de la Ligue arabe à Doha. Alors que l'opération annoncée de l'armée israélienne, les chariots de Gédéon visent à prendre le contrôle de Gaza, les 2 400 000 habitants sont pris au piège et en proie à une famine d'ampleur. David Régoulet-Rose est chercheur à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient.
Quand on sait la difficulté qu'il y a déjà à assurer la survie de ceux qui sont déjà installés sur le littoral, notamment dans l'aire dite de Mawassi, on voit pas très bien comment ça pourrait être gérable. Au point même que le président Donald Trump a émis des réserves en évoquant le fait qu'il ne pouvait que constater que les gens étaient affamés, qu'il fallait régler la question. Donc il y a une fuite en avant du gouvernement israélien qui est assumée d'ailleurs. Ce qui est implicite dans la formulation à destination de l'extérieur, c'est l'idée d'avoir établi une administration ad hoc pour faciliter la délocalisation des populations civiles à l'extérieur, dans des pays d'accueil. Mais évidemment, en favorisant cette sortie des populations, alors que du point de vue des ministres d'extrême droite, il est assumé que ça peut prendre la forme d'une expulsion contrainte. Le problème pour Benjamin Netanyahou, c'est qu'une expulsion contrainte, ça relève potentiellement d'un crime de guerre. Et donc, il y a cette volonté, au moins formelle, de favoriser un déplacement consenti, même si évidemment, il est peu probable que ça soit le cas.
Des propos recueillis par Sarah Yasmine Ziani, une intensification des combats condamnés par les chancelleries européennes. Ça suffit, a lancé Antonio Tajani, chef de la diplomatie italienne. Il faut arrêter le massacre, a lui déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a lui appelé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et il a réitéré son appel à un cessez-le-feu. Le Hamas a lui déclaré qu'un nouveau cycle de négociations indirectes pour mettre fin à la guerre a débuté à Doha, au Qatar, sans aucune condition préalable. Un acte terroriste intentionnel, c'est ainsi que le FBI a qualifié l'explosion qui a fait un mort aux États-Unis. Cela s'est passé à Palm Springs, en Californie, devant une clinique spécialisée dans la procréation médicalement assistée. Le bureau local de la police fédérale a ajouté qu'il pensait que l'établissement a été délibérément visé. Et puis, aux États-Unis toujours, on vient d'apprendre qu'un navire d'entraînement de la marine mexicaine a heurté le pont de Brooklyn à New York. On vous en dira un peu plus dans nos prochaines éditions. Les États-Unis, par ailleurs touchés par une série de tornades dans les États du Kentucky et du Missouri, des états du centre du pays, tempêtes qui ont fait au moins 25 morts et d'importantes destructions. Des dizaines de milliers de personnes sont toujours privées d'électricité. L'actualité en Europe, à présent, actualité marquée ce dimanche par plusieurs scrutins électoraux et notamment ce premier tour de l'élection présidentielle en Pologne. 13 candidats sont sur la ligne de départ pour succéder à Andrzej Duda en fonction depuis 2015. Karol Nawrocki du PiS, le parti conservateur, et le maire de Varsovie de la formation libérale Plateforme Civile, Rafał Trzaskowski, font partie des favoris. Campagne électorale marquée par de nombreuses tentatives de déstabilisation par la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux. Le site de Plateforme Civique a été attaqué ces derniers jours. Les autorités ont même donné un nom à cette opération de grande ampleur. Opération virale et hors de contrôle baptisée Doppelganger. Des postes mensongers utilisent l'image des médias traditionnels pour répandre des fausses nouvelles. Une opération menée depuis la Russie qui vise à déstabiliser la campagne présidentielle. Adrien Sarlat.
La méthode est d'une simplicité enfantine mais d'une efficacité redoutable. Là, on a ce tweet qui est accompagné d'un lien vers un article issu d'un média traditionnel pour appuyer le propos, mais il suffit de cliquer sur le lien ici et on se rend compte que l'article n'a rien à voir avec le sujet. Il n'est là que pour jouer l'amplificateur, pour dire ce n'est pas seulement la vie d'une personne lambda sur X, même les médias écrivent là-dessus.
Rien que sur le mois de mars, Alexandra Vujtovic et ses collègues ont relevé près de 300 publications suivant le même modèle. À l'origine, l'opération Doppelganger consistait en quelques pages internet imitant les sites des médias reconnus et dans lesquels les articles étaient remplacés par de fausses informations. Mais les trolls russes ont fini par concentrer leur activité exclusivement sur les réseaux sociaux.
Il faut avoir à l'esprit la façon dont on utilise X et les autres réseaux sociaux. On n'a pas beaucoup de temps, la plupart du temps on scrolle. Et c'est pour ça que c'est aussi efficace, parce qu'il suffirait de passer 2 minutes dessus, de cliquer et de commencer à lire pour s'apercevoir que c'est absurde, que tout est faux.
En donnant de l'écho au discours europhobe, anti-ukrainien et pro-russe, Doppelganger joue sur les peurs des Polonais, espérant orienter leur vote vers les extrêmes ce dimanche. Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
Et puis un autre scrutin que nous suivrons ce dimanche, le second tour de l'élection présidentielle en Roumanie, qui opposera le candidat d'extrême droite, Gheorghe Simion, au libéral, Nico Jordan. 18 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Élection que nous vous ferons bien sûr vivre tout au long de la journée sur RFI. RFI 5h06 à Tunis, au large de la Tunisie, le navire Ocean Viking a secouru hier plus de 270 migrants. À 3 reprises, le navire est venu en aide aux passagers d'embarcations de fortune. L'an dernier, près de 2500 personnes ont disparu ou sont mortes en Méditerranée, selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations. Et déjà près de 500 depuis le début de cette année. Les précisions, signées Magali Lagrange.
6 enfants et 3 bébés font partie des dizaines de personnes secourues hier par l'Ocean Viking en Méditerranée. 276 en tout, originaires des territoires palestiniens, d'Érythrée, d'Éthiopie, de Guinée ou encore du Soudan. Des passagers épuisés à bord de 3 embarcations différentes, en détresse, au secours desquelles s'est porté tour à tour le navire ambulance de l'ONG SOS Méditerranée. L'Ocean Viking a été alerté une première fois tôt le matin concernant une embarcation en bois surchargée au large des côtes tunisiennes, puis à 2 autres reprises dans la journée, les passagers des 3 embarcations ont pu recevoir des soins et être mises en sécurité à bord. Les autorités maritimes italiennes ont attribué comme lieu de débarquement le port d'Ancône, une décision que regrette l'ONG car il est situé à quelques 1500 km du lieu du dernier sauvetage, une distance qui impose 4 jours de plus de navigation rescapée et qui éloigne son navire des zones où les naufrages sont les plus fréquents.
Magali Lagrange, le Niger va appuyer l'Organisation internationale pour les migrations pour rapatrier plus de 4000 migrants vers leur pays d'origine d'ici juillet. Une annonce du gouverneur de la région d'Agadez pour éviter un désastre humanitaire selon ses mots. Les expulsions par l'Algérie de migrants de différentes nationalités vers le nord du Niger sont fréquentes, mais un pic a été constaté par Niamey le mois dernier. Une vague de refoulement sans précédent selon le général Ibra Boulama Issa sur la télévision publique nigérienne. Et puis enfin direction la place Saint-Pierre à Rome où vont affluer des dizaines de milliers de fidèles et quelques 200 délégations venues du monde entier, le gratin mondial qui vient assister à la première grande messe du nouveau pape Léon XIV qui fera son premier trajet en papa mobile. C'est le jour J pour Robert Francis Prévost qui revêt ses habits de pape. Éric Sénanque.
Cette journée symbolique commencera par un tour en papa mobile de la place Saint-Pierre, premier bain de foule pour Léon XIV devant les 200 000 fidèles attendus. La cérémonie d'inauguration du pontificat marque avant tout la continuité de l'évêque de Rome avec l'apôtre Pierre, premier pape de l'histoire. Avant la messe, Léon XIV descendra d'ailleurs sur la tombe de Saint-Pierre située sous l'autel principal de la basilique pour s'y recueillir et l'encenser, accompagné des patriarches des églises orientales. Puis le pape ressortira pour gagner le parvis de la basilique où débutera la messe. Et durant la cérémonie, 2 objets symboliques seront remis au nouveau pape, rappelant son ministère pétrinien. Le pallium tout d'abord, une pièce de laine d'agneau représentant les plaies de Jésus et qui symbolise le bon pasteur. Et l'anneau du pécheur, un signe qui représente l'autorité spirituelle du pape et évoque l'appel du Christ à se faire pécheur d'homme. Un appel toujours étroitement lié à la figure de Saint-Pierre. Léon XIV achèvera cette cérémonie en rentrant de nouveau dans la basilique Saint-Pierre pour y saluer les délégations du monde entier venues assister à cette cérémonie. Sont attendus le vice-président américain J.D. Vance, la présidente péruvienne Dina Boluarte, ainsi que de nombreux chefs de gouvernements européens et de têtes couronnées. Éric Sénanque, Rome, RFI.
Et puis enfin, l'Autriche remporte pour la troisième fois de son histoire le concours de l'Eurovision. Le contre-ténor JJ a triomphé hier soir à Bâle, en Suisse. JJ austro-philippin, âgé de 24 ans, qui a recueilli 436 points avec sa chanson Wasted Love. RFI 5h10, ici à Paris. Excellente journée à notre écoute.